devenu moi. Si tous ceux qui veulent changer le monde s'occupaient d'abord de leur propre changement, il y aurait certainement moins de chiens pour vous expliquer comment faire. Cette réflexion, en forme de la palissade, m'est inspirée par mon voisin crétin. Je dis crétin par décision unanime de moi-même, puisqu'à mon évidence, je suis bien plus malin, plus intelligent, peut-être bien plus humble. En tout cas, je n'ai pas cette imbécile prétention de me présenter aux élections, d'avoir l'outrecuidance de servir les autres. Prétention nombrilistique suprême. Mais qui suis-je pour me permettre cette diatribe? Qui suis-je? Je ne sais pas, sauf que je sais ce que je ne suis pas. Nationaliste, par exemple. Ça vient comme un cheveu sur la langue qui choie dans la soupe, mais ça a son importance. Donc je ne suis pas nationaliste. Une raison principale à cela, outre celle citée fréquemment, est l'absence totale d'alacrité dès qu'il s'agit du pas pareil. Le refus de l'autre, son rejet systémique. Sans compter qu'à force d'être entre personnes de bonne compagnie, le risque de consanguinité est assez évident. Bref, ce petit raccourci pour dire que je n'aime pas les nationalistes. D'ailleurs, en face de chez nous, Gisèle, vieille dame de toute bonté, est d'accord avec moi. Dès que tu parles d'une personne âgée, tu dérapes d'un siècle pour lui choisir un prénom. Pourquoi pas Germaine ou Raymond, tant que tu y es? Elle s'est massacrée, ma précieuse, ma boulette préférée, ma chérie. Elle est intervenante dans notre couple. Je l'écoute quand elle me coupe, c'est-à-dire souvent. Revenons au manque d'altérité qui caractérise mon voisin. Je précise, avant d'aller plus en avant, qu'il n'a pas eu d'enfance malheureuse, pas de coups, pas de pénétration non désirée, pas non plus un physique ingrat. Il est normal en tout point, ce con. Ce con est capable de dire tout et son contraire, parfois dans la même phrase. Ce con ne peut imaginer un sens à l'altérité. L'autre est identique, en moins malin. Ce con oublie ses inepties sitôt dites et ou faites. Il pense d'ailleurs que son vis-à-vis réagit de même. Ce con a des prétentions, fait preuve d'arrogance, comme tout imbécile qui ne respecte personne, a un avis éclairé sur tout, ferait mieux que, a des chefs idiots qui ne le valent pas, se gargarise et se la ramène jusqu'aux limites du supportable. En réalité, ce con fini, outre ses limites de base, est frustré sans aucune grandeur d'âme, très moche de l'intérieur. Sans un cœur pour s'émouvoir, ce con ne génère rien de positif. Dommage, le cœur donne à l'idiot une noblesse bien enviable, agréable à partager tandis que son absence crée le con. Qu'il soit cultivé ou non, vif ou mou. Il est dit que nous sommes toujours le con d'un autre, mais il faut reconnaître que certains sont spécialistes et s'acharnent. Ce matin, rasé de près, vêtu d'un beau trois pièces, il part au taf. Le pas est énergique, le regard assuré sans être rassurant. Tellement semblable à ce qui doit, ce qui se fait, qu'il m'est impossible de voir l'angle positif chez cet homme. Demain soir, il a prévu une réunion pour rassembler toutes les bonnes volontés qui veulent que ça change enfin. Non mais des fois, marre de ces salaires de misère, de ces zones de non-droit, de ces immigrés drogués, de ces avortements, et puis vous voyez bien de qui je parle, hein? Vous serez le bienvenu à ma réunion, vous nous ferez l'honneur. Je décline sous un prétexte inventé, lâche. Une autre fois peut-être. T'as toujours pas expliqué le titre, devenu moi. Comment faire, monsieur Critère, dans ce monde formaté où la différence n'est pas une chance, où toute singularité devient un handicap? Beaucoup plus simple qu'il n'y paraît à condition de ne pas s'en remettre au hasard en lui préférant sa nécessité. Je veux parler des vibrations que l'on ressent souvent dès que l'on tend l'oreille. De bonnes influences sont cependant nécessaires et donc de bons maîtres, en quelque sorte des influenceurs pour éveiller, à penser les blessures de l'âme. Ce dernier point est moins facile à réaliser car, sans pour autant parler d'auto-da-fé, certaines œuvres restent planquées au fond des rayons et leurs auteurs oubliés avec leur dernier souffle. Je pense à Sioran, mais je pourrais en citer des dizaines pour faire sérieux. Moi, c'est Raoul qui m'a fait connaître mon gisant, mon unité. À ce jour, il vit encore, écrit encore, et je lui baiserai volontiers les mains, flatterai suffisamment son égo pour qu'il continue son œuvre. J'en apprécie chaque ligne. Tu vois bien que toi aussi t'en rajoutes. Je crois vraiment qu'il faut avoir lu certains livres, écouter certaines musiques, aimer des gens. Le faire comme des gestes de survie. Trouver un minimum alentour pour se reconnaître, donner sans besoin de recevoir, parfois aimer la terre entière et s'en repaître dans la félicité. Les gens, c'est facile. Il y a tellement d'humains qui vous chient dans les bottes que la sélection est facile à faire. Les animaux, c'est bien à condition de ne pas fréquenter de crocodiles. Le végétal et le minéral ne déçoivent jamais. Suffit de savoir respirer. Magique. Pour la musique, je n'ai qu'un mode de sélection. Mes pleurs. Quand je suis émue aux larmes, je me retrouve dans une sorte d'extase qui me comble assez pour oublier le con cité plus haut. Je cite l'oiseau qui proteste, les grenouilles qui communiquent, le brame du cerf quand sa quéquette le démange, le chant flamenco, le piano de Dominique quand il fait le portrait musical de ma muse, et plus encore. La lecture, c'est assez simple pour moi. J'ai le désir éclectique et une soif inextinguible qui me permettent une absolue tranquillité quasi permanente. Je vous donne L'œuvre au noir de Marguerite Yourcenar, Une pomme oubliée de Jean Anglade, Siddhartha d'Hermann Hesse, et pour finir Raoul van Egem et son traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations. Le travail est ce que l'homme a trouvé de mieux pour ne rien faire de sa vie. C'est Raoul van Egem qui le dit. Moi, je le constate tous les jours.